Vous écoutez, on lit pour vous.
Le retrait des alcools américains coûte cher à la SAQ. Un texte d'Annabelle Cailloux paru le 6 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Le retrait des alcools américains de la Société des alcools du Québec a engendré près $1 million en frais d'entreposage. L'initiative de don a permis de distribuer 3 763 caisses d'alcool à 183 organismes. Les ventes de vins et spiritueux québécois ont augmenté suite au retrait des produits américains. Un an après le retrait des vins et des spiritueux américains de ses tablettes, la Société des alcools du Québec, SAQ, paie encore la facture de cette décision du gouvernement Legault. La société d'État a englouti près $1 million en frais d'entreposage et elle se prive des revenus qu'aurait généré la vente de ces milliers de bouteilles. Le whisky Jack Daniel's et les vins californiens ont disparu des succursales le 4 mars 2025. En réaction aux tarifs douaniers du président Trump, Québec a ordonné à la SAQ de vider ses tablettes de tout alcool américain, d'en cesser la vente en ligne et d'en arrêter l'approvisionnement aux agences, aux épiceries, aux bars et aux restaurants. Un peu plus de 900 produits américains, dont 720, étaient vendus par la SAQ. Cela représente des centaines de milliers de bouteilles évaluées à $27,2 millions au moment de leur retrait. Depuis, les stocks dorment dans des entrepôts, ce qui alourdit les dépenses de la Société d'État. Rien que pour la période du 4 mars au 31 décembre 2025, les coûts liés à cette opération s'élevaient à $900 000, révèlent des documents obtenus par Le Devoir en vertu d'une demande d'accès à l'information. Cette somme comprend les coûts d'entreposage des produits, le financement des inventaires et les sommes additionnelles versées en salaire. Dons d'alcool aux organismes. Certains produits ayant une date de péremption, le gouvernement a demandé en août à la SAQ d'en faire don pour éviter leur destruction. Ils ont été offerts à des fondations dans le cadre d'événements de charité, ainsi qu'à des écoles d'hôtellerie du Québec à des fins de formation. Les produits concernés sont ceux dont la date de péremption arrivait à échéance cet automne ou ceux n'étant pas conçus pour une garde prolongée et dont la conservation peut altérer le goût. Il s'agit, par exemple, de vins rosés, de vignées, de prêts à boire, de crèmes et de certaines bières et liqueurs. Cette initiative a permis de distribuer 3 763 caisses d'alcool américain à 183 organismes, révèlent d'autres documents obtenus. Parmi eux figurent de nombreux centres communautaires, des fondations ainsi que des organismes ou des événements culturels comme l'Orchestre symphonique de Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde, le Festif ou encore le Carnaval de Québec. La fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne a reçu la plus grande quantité, soit 134 caisses, suivie par la Tablée des chefs, qui en a obtenu 99. Selon l'avocat de la SAQ, maître Daniel Colette, la valeur comptable des produits américains remis à des organismes en don était de l'ordre de $300 000, ce qui inclut le prix d'achat, les taxes et les coûts afférents, comme le transport. À la fin de l'année 2025, le nombre de caisses de produits américains toujours en possession de la SAQ était estimé à 220 000 et il restait à pareille date environ $26,9 millions en stock sur les $27,2 millions du départ selon la Société d'État. Des produits au rabais. Comme un nouveau lot de boissons américaines pourrait voir sa qualité altérée d'ici mars 2027, le gouvernement a exceptionnellement autorisé la SAQ à écouler celui-ci à partir du 12 février auprès des consommateurs. Les produits sont vendus uniquement en ligne et dans les SAQ dépôts avec un rabais de 15%. Toutefois, l'argent récolté ne reviendra pas dans les caisses de la société d'État, et donc, par association, au gouvernement qui perçoit des dividendes, mais sera plutôt versé à banques alimentaires du Québec. La SAQ estime pouvoir aller chercher jusqu'à 8,6 millions de dollars et calcule qu'elle déboursera 4,9 millions en coûts de fonctionnement et en rabais. Impossible pour le moment de savoir si l'initiative fonctionne et si les Québécois ont toujours envie de boire des alcools américains, étant donné le boycottage des États-Unis toujours en cours. L'initiative est encore toute récente. Il est trop tôt pour faire le point à l'heure actuelle, a indiqué par courriel la porte-parole Lauriane Tardif. Impossible également de savoir à quel point cette décision politique et les dépenses qui en découlent pèsera dans les prochains états financiers de la SAQ qui doivent être rendus publics en juin. À noter que les produits américains représentaient 8% des parts de marché pour l'année 2023-2024. Maître Daniel Colette souligne par ailleurs qu'il est possible que les consommateurs aient tout simplement substitué leurs achats de produits américains par d'autres produits commercialisés par la SAQ, ce qui pourrait limiter les pertes. Les producteurs québécois en profitent. En retirant les produits américains, la SAQ avait fait savoir qu'elle comblerait l'espace vacant majoritairement par des produits québécois et canadiens. Une décision qui se reflète déjà positivement dans les ventes. Selon les données obtenues par Le Devoir, les ventes nettes de vins originaires du Québec se sont élevées à 21,7 millions de dollars entre le 4 mars 2025 et le 31 janvier 2026, comparativement à 14,7 millions pour la même période l'année précédente. Du côté des spiritueux québécois, les ventes ont atteint 22,2 millions de dollars entre le 4 mars 2025 et le 31 janvier, comparativement à 18,3 millions l'année d'avant. Depuis le retrait des alcools américains des SAQ, 8 producteurs québécois ont fait leur entrée à la SAQ. Il s'agit du domaine Vinaterra, du vignoble Darford, du très précieux sang, du domaine Oak Hill, de la seigneurie de Lirette, du vignoble Clos des Cigales, de Pinard et Filles et d'Hydromel Charlevoix. La SAQ précise toutefois que l'arrivée de certains d'entre eux était déjà planifiée. C'était « Le retrait des alcools américains coûte cher à la SAQ », un texte d'Annabelle Caillou paru le 6 mars 2026 dans Le Devoir.
Une certaine forme de résistance. Un texte de Dany Laferrière, paru le 6 mars 2026 dans La Presse. La stratégie de la mer. J'ai l'impression d'être de plus en plus dans cette forme de résistance qui consiste à se mettre en boule pour laisser passer la houle dans un monde en chute libre. Ma mère, qui avait des relations particulières avec le temps, revenait toujours vers cette sagesse qu'elle avait piquée plutôt aux paysans qu'aux philosophes. En réalité, il n'existe aucune philosophie qui ne soit pas d'origine paysanne. Sa stratégie se résumait à se mettre au lit au milieu de la journée afin d'éloigner les créanciers qui avait toujours peur d'une maladie contagieuse. De plus, elle émiettait le temps, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de tant de choses à la fois qu'elle ne le voyait pas passer. J'ai hérité de cette philosophie qui se pratique avec un sourire en coin. On sait qu'une époque est devenue invivable quand l'ironie n'est plus de mise. On a Dieu aujourd'hui que pour les grandes tragédies, qu'on tente de chasser à coups de grands gestes, de grandes tirades, de hurlements sans fin, et de vœux pieux qu'on lance au ciel? Enfin, tout ce qu'on croit à la hauteur d'un vrai drame, pendant que ce petit trésor discret, l'ironie, qui signale qu'on tente de faire un pas de côté par rapport à l'époque, disparaît sans crier gare. Elle ne se servait pas de l'ironie pour se moquer des gens, ce qui aurait été à ses yeux une lâcheté. Ma mère l'utilisait pour saper les pouvoirs, toutes les formes de pouvoir. Il lui arrivait de chuchoter une réplique. Elle se mêlait de tout à voix basse, qu'elle seule entendait, tout en étant sûre que cela finirait par atteindre celui à qui elle était destinée. Pour désavouer une situation qui lui semblait à la fois inévitable et au-dessus de ses forces, elle restait plus longtemps au lit, préférant dormir que de vivre ça. Cette femme était en porte-à-faux avec son époque bruyante. Avait-elle raison? Peut-être pas, mais sa méthode en valait bien une autre. D'une certaine manière, c'est mon héritage. Elle ne m'a légué que le sommeil et l'alphabet. L'héritage du fils. Si jamais il se passe des choses inattendues dans ma ville, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sachez que je suis au lit, à lire, à rêver et à écrire. Sauf le jeudi, où je m'occupe des mots avec quelques amis, tout aussi gourmands que moi de leur saveur, leur couleur et leur poids. Du lit, j'entends tous les bruits de la rue. Les gens s'agitent, et sans cette agitation, je n'aurais pas pu manger, boire, voir un film quand j'en ai envie, visiter le musée ou aller chez le coiffeur. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit qu'on n'est pas dans le monde. En lisant, je fête en silence de si gaies voyelles et de si laborieuses consonnes. Et en écrivant, je fais pareil. Une tentative de faire baisser l'intensité du bruit que fait le braillard. On peut toujours écrire, mais s'il n'y a personne pour lire, ça n'a plus aucun sens. Les gens n'ont aucune idée combien un bon livre peut être stimulant parce qu'il vous impose une attention soutenue à des détails qui se dérobent constamment sous nos yeux. Un mauvais écrivain ne cesse de vous signaler, par des coups de klaxon, chacun de ses jeux de langage. Pas d'inquiétude, la moindre trouvaille va revenir 3 ou 4 fois dans la même page. Un bon livre nous absorbe au point qu'on se retrouve à l'intérieur du récit. On a du mal à imaginer combien c'est reposant d'être un personnage dans le roman d'un autre. On se laisse conduire comme pour une balade en décapotable au mois de juillet. Mais quand on se retrouve dans un mauvais roman avec un écrivain chauffard, ce n'est jamais loin du cauchemar. On doit tout le temps lui signaler qu'il a franchi la ligne jaune, qu'un camion fonce droit sur nous, ou qu'un enfant s'apprête à traverser la rue derrière un ballon jaune. Pour éviter un drame, il convient de descendre du livre au prochain feu rouge. C'est étonnant de découvrir à quel point les mots nous habitent. Les gens n'arrêtent pas de raconter leur vie à d'autres, souvent à de parfaits inconnus, et dans les plus improbables situations. C'est le moment d'annoncer qu'on va se marier ou qu'on a attrapé cette maladie inavouable. Je me demande toujours combien nous sommes à accorder tant d'importance à ce qui se dit dans la rue ou un peu partout. Et qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Le sens des mots ou la musique des phrases? J'ai remarqué que le chauffeur de taxi a ralenti son débit verbal depuis le début de cette décennie. Ça ne tardera pas qu'il nous facture la conversation. La réalité, c'est que nous sommes épuisés de n'entendre parler que d'une seule et même chose par ce brailleur qui se prend pour un oracle. Nous voilà enfermés avec un fou dans un roman fleuve qui risque de nous entraîner vers une mer de sang. Pourquoi cette peur de la sieste que prisait tant ma mère? Pense-t-on que le corps ne repartira pas après un arrêt? Nous avons plus besoin de sommeil que de toute autre chose, et aussi de poésie. Un seul vers. Ungaretti est devenu célèbre pour un seul vers. Je m'éblouis d'infini. On se souvient de Lamartine grâce à ce vers dévastateur. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Racine apparaît sur l'écran de notre mémoire par ce splendide vers dont chaque mot est fait d'une syllabe. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Nelly Gant arrive sur un grand vaisseau taillé dans leur massif, tandis que Rimbaud, qui ne se sent plus guidé par les haleurs, descend des fleuves impassibles. Le jeune poète, Jonas Fortier, prix Nelly Gant 2025, peut être fier de ce vers simple en apparence qui ouvre l'air fou. Édition Loi de Cravant, et qui dit la solitude d'une génération. J'entends les autos dehors, tel est mon horizon. C'était une certaine forme de résistance. Un texte de Dany Laferrière, paru le 6 mars 2026 dans La Presse.
Pour le barreau, la CAQ abuse de la disposition de dérogation. Un texte de Caroline Plante de La Presse canadienne, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir. L'invocation de plus en plus fréquente de la disposition de dérogation pour soustraire au contrôle judiciaire des lois qui contreviennent à certains droits fondamentaux inquiète le barreau du Québec. Dans son mémoire sur le projet de loi 9, un texte qui s'intitulerait « Loi sur le renforcement de la laïcité », le barreau prévient contre le risque de dissension sociale et d'une polarisation accrue au Québec. Piloté par le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, le projet de loi 9 vise notamment à étendre les obligations de neutralité religieuse à de nouveaux secteurs comme les garderies. Il obligerait le visage découvert dans les cégeps et universités, supprimerait le financement public des écoles religieuses et interdirait les prières de rue, qui peuvent être des gestes de provocation, selon M. Roberge. L'article 14 du projet de loi 9 affirme que la loi a effet malgré les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne, ce qui inclut la liberté de religion et d'expression, les garanties juridiques et le droit à l'égalité, souligne le barreau. Cela soulève une fois de plus des questions fondamentales quant à la protection du public et à la préservation de l'état de droit, écrit-il dans son mémoire qui sera présenté mardi en commission parlementaire. Le barreau rappelle que depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, a eu recours à la disposition de dérogation pour la loi 21, laïcité, et la loi 96, langue française. La contestation, pilier de notre ordre juridique. Dans son projet de loi 1, Constitution québécoise, la CAQ interdirait également aux citoyens de contester toute règle de droit qui serait visée par une disposition de souveraineté parlementaire. Or, les principes démocratiques, l'indépendance des institutions, l'égalité devant la loi et la reconnaissance du droit à la dissidence juridique constituent les piliers de notre ordre juridique, affirme le barreau. Il s'agit d'un héritage précieux que nous avons le devoir de protéger et de préserver. Lorsque des initiatives législatives compromettent ces fondements, il est impératif de les dénoncer. Le barreau propose d'encadrer le recours à la clause dérogatoire puisqu'il s'agit, rappelle-t-il, d'un mécanisme d'exception dont l'usage a longtemps été rare. L'adoption d'une loi cadre pourrait ainsi être envisagée. Déroger aussi à la Charte québécoise. L'organisme compte dénoncer aussi une contradiction majeure. Le projet de loi 9, par exemple, prévoit une disposition de dérogation qui vise la Charte québécoise des droits et libertés. Pourquoi un gouvernement suspendrait-il des droits fondamentaux qu'il proclame par ailleurs dans ses propres lois fondamentales sans même en permettre l'analyse par les tribunaux? Demande le barreau. Le barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de 32 000 avocats. Sa mission est d'assurer la protection du public, contribuer à une justice accessible de qualité et défendre la primauté du droit. C'était, pour le barreau, la CAQ abuse de la disposition de dérogation, un texte de Caroline Plante de la Presse canadienne, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir.
L'enfant à la fenêtre. En sous-titre, l'humain serait-il une espèce inférieure et prétentieuse, inapte à réguler sa vie et sa survie? Un texte signé Gérard Bouchard, publié dans Le Devoir des 14 et 15 mars 2026. Il pourrait s'agir d'un tableau impressionniste, d'un poème naïf ou d'une thèse ésotérique. Ce n'est pas le cas. C'est le titre que m'a inspiré un article paru cette semaine à la une d'un quotidien. On y voit un petit garçon iranien debout à la fenêtre d'un immeuble de logement dans un quartier frappé par un bombardement auquel il a survécu. L'enfant est seul. On ne voit pas de traces de ses parents, de sa famille. Il n'y a pas de vie dans la pièce. Cette image, qui aurait pu être banale dans un autre contexte, m'a bouleversé. L'enfant est là, qui observe, et ce qu'il voit semble au-delà de ce qu'il peut capter, au-delà de toute compréhension. Contrairement à la célèbre petite fille au napalm, qui hurlait de souffrance et d'horreur en s'enfuyant, le visage du petit garçon, immobile, n'exprime rien. Il semble fixé sur un horizon qui n'est nulle part. Son regard ne traduit ni effroi ni désespoir. C'est un regard vide. Et c'est encore plus troublant. Il est pénible de songer que notre époque produit des milliers et peut-être des millions d'enfants comme ça à travers le monde. On pense alors au vers d'Aragon. Citation. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Fin de citation. On reste suspendu à cette interrogation et on se demande comment désormais inculquer à nos successeurs la dose de candeur et de foi qui permet d'espérer, de nous unir, de rêver et d'agir. Illusion que tout cela? Ou impuissance devant un monde qui n'offre plus de prise à l'action des honnêtes gens? Quand on songe à la façon dont notre siècle va, on a peine à repousser l'idée que nos sociétés tournent le dos aux vertus les plus élémentaires, qu'elles sont menacées de sombrer dans la fuite qu'offrent la frivolité, le simulacre, l'insignifiance, quand, ce n'est pas la tromperie, la bêtise, la violence. Comment refonder le règne de la sagesse et de la raison dans un monde où les libertés se contractent, où la méfiance et le mensonge prospèrent, où les démocraties vacillent, où les puissants se menacent ou s'affrontent et forcent les autres nations à s'armer elles aussi, où la planète elle-même est menacée? L'humain serait-il une espèce inférieure et prétentieuse, inapte à réguler sa vie et sa survie? Inapte à l'atteinte du bonheur auquel il continue néanmoins d'aspirer? Je suis un homme âgé, engagé dans sa dernière ligne droite. Je me surprends à exprimer ici une vision aussi sombre. Elle est très éloignée de mon caractère et en profonde rupture avec tout ce que j'ai pensé et écrit durant mon parcours de sociologue et d'historien. Mais on avouera que l'état du monde est très angoissant. Ce qui prédomine, encore une fois, c'est le sentiment d'être voué à l'inaction comme citoyen. Je veux dire, une incapacité à se mobiliser et à se rebeller pour retrouver la maîtrise du changement. Nous nous sommes émerveillés, avec raison, des dernières avancées technologiques. Elles sont sur le point de subjuguer et de désordonner nos vies. Pour plusieurs d'entre nous, la mondialisation, sous la garde des États, allait ouvrir des horizons inespérés d'émancipation. Confisquée par le mauvais génie d'un capitalisme débridé, elle est devenue un puissant filet qui nous entrave. Da Ampoli, ce désinvolte marchand de malheur, aurait donc raison. Tout cela conduira-t-il à une catastrophe qui va nous libérer et ramener le monde à la raison, mais à prix fort, comme il est arrivé déjà dans l'histoire? Je pense aux quelques décennies de repentance, d'accalmie et de progrès qui ont suivi les deux guerres mondiales. Mais on conviendra que ce n'est pas le scénario idéal. Est-il trop tard pour en concevoir d'autres qui réconcilieraient le rêve et la réalité, le sens de la grandeur et de la mesure, de l'équité et de l'honneur, qui permettrait à tous les petits garçons du monde de grandir en paix et de sourire devant leurs fenêtres? Et c'est ainsi que Gérard Bouchard met un point final à ce texte qu'il a titré « L'enfant à la fenêtre », publié dans Le Devoir des 14 et 15 mars 2026.